toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la foi, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Il y a un an, une enquête de l'INSEE rapportait que les familles juives et musulmanes transmettaient mieux leur religion que les familles catholiques. À côté de cela, l'augmentation des catéchumènes baptisés à Pâques montre un regain de foi chez les jeunes adultes. Parmi les raisons invoquées par ces derniers, des rencontres avec des chrétiens ou le témoignage de grands-parents. Pourquoi la transmission a-t-elle lieu ou est-elle mise à mal? C'est la question que je pose à mon invitée du jour, Catherine Chalier, philosophe, autrice de Transmettre de génération en génération. Bonjour Catherine Chalier.
Bonjour madame.
Peut-être pour commencer, comment définissez-vous la transmission?
Transmettre, c'est le passage d'une génération à une autre génération, j'allais dire d'un trésor qui ne nous appartient pas, ni à la génération précédente, ni à celle qui suit, mais un trésor qui est fait de paroles, qui est fait de symboles, qui est fait de mémoire, qui est fait de récits, qui est fait de faits et gestes, et qui sont indispensables pour qu'un petit humain grandisse, donne sens à sa vie et se repère dans ce monde qui est souvent très violent et très sombre et puisse donc y apporter sa part à lui, une part qui sera aussi issue de ce qu'il a reçu, mais qui ne s'y résumera pas, puisque dans la transmission, j'insiste beaucoup sur ce point, et c'est central dans le judaïsme en particulier, puisque vous avez cité cela tout à l'heure, un renouvellement de sens. Il ne s'agit pas de répéter quelque chose qui soit figé, il faut que ce que l'on a reçu se renouvelle grâce à nos interrogations, grâce à des questions qui viennent de notre être le plus profond et que peut-être nul n'a posé avant nous.
Alors la transmission concerne les grandes traditions religieuses, mais aussi l'école, l'engagement associatif, syndical. Comment se porte-t-elle aujourd'hui, selon vous, cette transmission?
Je ne suis pas sûre qu'elle soit au mieux de sa forme. Pour ce qui concerne les traditions religieuses, je ne sais pas si les chrétiens transmettent moins bien que les juifs ou les musulmans. La question est de savoir comment, à l'intérieur même de ces traditions religieuses, se fait cette transmission. Est-ce que c'est une transmission frileuse pour que la nouvelle génération nous ressemble et ne s'écarte pas de nous et au contraire s'écarte de ceux qui, dans la société, sont différents? Ça serait une transmission qui me semblerait, porter beaucoup de soucis dans la société. Ou eh bien, est-ce que c'est une transmission, je parle des relations religieuses, des traditions religieuses, pardon, c'est une transmission qui inscrit l'enfant qui vient de naître, en effet, dans une généalogie culturelle et spirituelle qui a porté les siens pendant des siècles souvent, mais avec charge à lui de l'interroger, de la porter à son tour et de la transmettre. Et il y a un contenu de sens, il y a un contenu de connaissance, mais il y a aussi la perception par l'enfant. Est-ce que cette tradition fait vraiment vivre ceux qui me la transmettent? Vous voyez, donc ce n'est pas seulement un savoir, parce qu'on peut transmettre un savoir et puis être étranger à ce savoir. Donc, et ça, je pense que c'est très important par rapport aux traditions religieuses. Il ne s'agit pas d'enfermer l'enfant dans cette tradition, mais de lui montrer comment ces paroles qu'on lui transmet, ce livre qu'on lui transmet, je parle de la Bible dans un sens très large, ou bien du Coran par rapport aux musulmans, ces textes font vivre, ont un contenu spirituel qui peut aussi l'aider à s'interroger et pas seulement à trouver des réponses. Alors, ça, c'est un premier lieu. Alors, il y a ensuite l'école. Alors, dans l'école, dans un pays comme la France, cette école se veut républicaine, donc elle, à juste titre, et donc elle veut transmettre un patrimoine culturel, intellectuel, etc., qui soit le même pour tous. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, l'école est portée aussi par des tensions importantes, parce que les enfants et les jeunes gens qui sont à l'école à l'heure actuelle viennent souvent d'horizons différents. Donc il y a des enfants qui n'ont pas du tout la même histoire, je parle là de l'histoire du pays, que ceux du pays qui les accueillent, et certains professeurs, instituteurs se sentent un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Et là, je crois qu'il faut essayer de trouver une façon fine de répondre à cette difficulté, à la fois... Oui, c'est dans ce pays que ces jeunes gens vont vivre, et donc il faut leur transmettre l'histoire, les valeurs de ce pays, plus bien sûr ce qui est universel, comme les mathématiques, etc., les autres sciences, mais en même temps, être aussi à l'écoute de leur propre histoire à eux. Je dis à l'écoute, mais je ne veux surtout pas les enfermer dans cette culture qui est la culture d'origine, parce que là, ça serait les empêcher finalement d'être véritablement dans vos pays qui les accueillent. Alors c'est surtout vrai par rapport à la transmission, par exemple, de la littérature, de la philosophie et de l'histoire.
Alors on voit bien dans ce que vous dites, il y a à la fois un enjeu de vie pour la personne, mais il y a aussi... un enjeu d'enrichissement de la culture, quelque part.
Bien sûr, oui, un enrichissement de la culture. Par exemple, quelque chose de très, très banal, on voit bien qu'avec la déperdition de l'enseignement de la religion dans le sens large, et en particulier chrétienne, beaucoup, et moi je peux vous le dire, j'ai eu des étudiants de philosophie à l'université, donc ils avaient 20 ans, et rien de ce domaine. Or, mais vraiment rien. Or, si vous ne savez rien de ce domaine, vous êtes devenu aussi un étranger par rapport à la littérature, par rapport à la philosophie et par rapport à l'art. Et visiter le Louvre aujourd'hui, pour des jeunes gens qui n'ont pas du tout reçu la moindre éducation dans ce domaine, beaucoup de tableaux sont... Ils peuvent admirer la beauté comme ça d'une façon vague. Je ne sais pas, par exemple, je me souviens voir un très beau tableau avec une jeune personne qui était les disciples d'Emmaüs. Il n'y avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Voyez, et donc, c'est aussi culturel. C'est pas une transmission de foi, c'est une transmission culturelle. Et qu'on le veuille ou non, un pays qui a été marqué par cette culture-là.
Quel est l'autre enjeu que vous voyez ? Est-ce que c'est le lien entre les générations ? Pourquoi c'est si important de transmettre ?
C'est très important de transmettre parce que c'est un lien symbolique entre les générations. Et les générations ne sont pas simplement faites de chair, même si elles sont faites de chair également, bien sûr, mais elles sont aussi faites... de symboles, et elles sont faites aussi de ce qui nourrit l'esprit d'une personne, pas seulement son intelligence spéculative. Et donc, pour cela, il faut bien lui transmettre ce qui fait sens pour nous et qui peut-être pas lui imposer d'une façon dogmatique, traumatisante, un stock de vérité à admettre, point final. Mais voilà, voilà. Et donc peut-être il faut aussi vivre de ce qu'on transmet. Bon, mais je pense que c'est installé dans nos sociétés un oubli de plus en plus grand, et je dirais plus précisément encore pour les très jeunes générations, un oubli de l'oubli, c'est-à-dire ne savent pas qu'ils ont oublié. Et donc, ça ne les fait pas souffrir.
Alors, comment transmettre en laissant l'autre libre ? Vous souleviez cette question-là en disant, en n'étant pas dogmatique.
Oui, ça c'est très important. Il y a eu, par exemple, après l'année 1968, toute une génération de personnes chrétiennes ou juives qui disent, qui peut-être... avait reçu une éducation un peu autoritaire ou sans saveur, sans sens, et qui ont dit bon, je ne vais pas transmettre à mes enfants pour ne pas les influencer, un mot stupide, et voilà, parce que et ils choisiront plus tard. Or, on ne peut pas choisir plus tard de cette façon à partir de rien. C'est voilà. Donc, il s'agit de transmettre. Il ne s'agit pas d'être dogmatique. Il ne s'agit pas d'être menaçant. Il ne s'agit pas de dire c'est ça ou rien. Il s'agit de proposer par exemple des textes, des paraboles, des histoires, pour me situer des choses très simples, qui peuvent être interrogées de façon où on va reconnaître dans cette histoire des interrogations qui peuvent être les nôtres. Et si vous voulez, tandis qu'une transmission trop rigide, elle vise à imposer et ne permet pas justement la liberté. Alors, si vous voulez, on est dans ce mot liberté, bien sûr, c'est un magnifique mot, mais il est trop souvent confondu avec l'idée que c'est de l'autonomie et que autonomie, ça veut dire je me donne à moi-même ma propre loi. Très bien, mais il faut peut-être aussi recevoir quelque chose pour pouvoir choisir et pour pouvoir grandir. Et vous voulez, je crois aussi, pour insister sur un deuxième point, si nous avons encore le temps, juste un minime point, il ne s'agit pas de transmettre pour que chacun ait son identité qu'il revendique, mais pour que chacun trouve son unicité par laquelle il peut répondre à ce monde.
Merci Catherine Chalier. Je rappelle le titre de votre livre « Transmettre de génération en génération » paru aux éditions Salvator sous une forme enrichie. Un grand merci à tous d'être fidèles à 1000 questions à la fois. À la semaine prochaine.
Merci Florence Châtel. En effet, 1000 questions à la fois avec vous Florence. Et bien c'est tous les samedis à retrouver en podcast radio-notre-dame.com, rcf.fr. Restez à l'écoute dans moins de 5 minutes. L'invité culture, nous évoquerons l'exposition « Trésor Sophé de Gaza, 5000 ans d'histoire », une magnifique exposition qui est à découvrir en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. On en parlera avec la commissaire de cette exposition, Élodie Bouffard. Excellent début de week-end à l'écoute de Radio Notre-Dame et RCF.